Revenons au sommaire. Pour rappeler qu'il y a 12 ans, un premier roman remportait le prix Goncourt, se vendait à 1 million d'exemplaires. Il s'agissait des Bienveillantes. Jonathan Little, l'écrivain, revient au roman et à la longue forme en reprenant et amplifiant un court texte paru en 2012 aux éditions Fata Morgana. Il propose 7 variations sur le même point de départ. Et on verra qu'il s'agit d'interroger de toutes les façons les relations humaines. Ma tête creva la surface et ma bouche s'ouvrit pour happer l'air, tandis que, dans un vacarme d'éclaboussures, mes mains trouvaient le bord, prenaient appui et, transférant la force de ma lancée aux épaules, hissaient mon corps ruisselant hors de l'eau. Je restais un instant en équilibre au bord, désorienté par les échos assourdis des cris et des bruits d'eau, étourdi par la vision fragmentée de parties de mon corps dans les grandes glaces encadrant le bassin. Autour de mes pieds, une flaque allait en s'élargissant. Un enfant fila devant moi, manquant de me faire partir à la renverse. Je me ressaisis, ôtai mon bonnet et mes lunettes et, jetant un dernier regard par-dessus mon épaule à la ligne luisante de mes muscles dorsaux, sortis par les portes battantes. Séché, revêtu d'un survêtement gris et soyeux, agréable à la peau, je retrouvais le couloir. Je dépassais sans hésiter une bifurcation, puis une autre. Il faisait assez sombre ici, et la lumière indistincte laissait à peine entrevoir les murs. Je me mis à courir à petite foulée, comme pour un footing. Je pourrais continuer longtemps, mais je vais m'arrêter là. C'est le tout début du livre de Jonathan Little pour une scène qui va se répéter, disons-le, un peu différemment cette fois, et un enchaînement de séquences, puisque c'est bien de cela qu'il s'agit, qui vont se dérouler de façon diverse, selon d'ailleurs peut-être aussi parfois le genre du narrateur ou de la narratrice, et selon les univers qu'il va rencontrer. Mais on retrouvera dans chacune des 7 parties de Une vieille histoire, nouvelle version, des éléments qui vont se répéter, se faire écho, se diffracter. Jean-Christophe Briançon va commencer à nous parler de ce livre de Jonathan Little.
Alors c'est effectivement un enchaînement de 5 séquences par chapitre, donc c'est 35 séquences qui effectivement se ressemblent et qui se suivent dans ce roman, et qui suivent de manière assez magistrale selon moi, et qui prouvent à ceux qui en avaient besoin le talent de Jonathan Little, puisque vous le disiez, suite à la publication des Bienveillantes en 2006, il avait quand même fait l'objet de pas mal de critiques, ou en tout cas de débats. Débat qui, selon moi, n'avait pas forcément lieu d'être, et la suite l'a prouvé, entre autres par Le sec et l'humide, qui pour moi est un grand livre, qui entre autres a fait l'objet d'un spectacle mis en scène par Guy Cassir, ce qui est tout aussi remarquable que le livre. Donc pour ceux qui en doutaient, c'est un livre qui permet de prouver une fois de plus que Jonathan Little est un grand auteur, et un grand auteur de la précision, entre autres, puisqu'il le dit lui-même dans l'entretien qu'il a donné au Monde, là, je crois, il y a la semaine dernière.
C'est dans le Monde d'aujourd'hui. Voilà. Et c'était sur Internet dès la semaine dernière.
C'est dans le Monde papier du jour.
Enfin, oui. Voilà, comme quoi je suis vraiment à la page.
Ouais. Vous savez me faire plaisir.
il dit lui-même qu'il attache une grande importance à la précision, et c'est un des traits caractéristiques de cette écriture et de ce roman-là en particulier. Enfin, c'était aussi le cas des Bienveillantes, c'est de faire l'objet d'une précision dans, entre autres, ses descriptions, mais aussi dans sa construction narrative, puisque vous le disiez, c'est des séquences qui se répètent, mais et qui se remarquent aussi effectivement certains détails qu'on y retrouve, entre autres, par exemple, les pommes. Il y a toujours une séquence.
Ça dépend des couleurs.
voilà, dans laquelle un des personnages mange une pomme qui sera d'une couleur différente. Et les personnages aussi auront des différences, voilà, alors soit des différences de genre ou d'âge. Donc ça, voilà, c'est assez remarquable la précision avec laquelle il décrit chacune des situations qui sont celles des personnages. Des situations qui sont, on pourrait dire, à l'image des répétitions qu'on vit dans le monde, puisque le personnage court dans un couloir et au fil de sa course, à chaque fois, rentre dans des pièces qui émaillent, enfin voilà, qui oui, émaillent son parcours. Et dans chacune des pièces se trouve une situation dont on peut penser qu'elle serait représentative d'un état donné du monde ou d'un état donné du temps qu'on vit. C'est aussi remarquable par on va dire par la fuite et par l'indécision, par l'illisibilité de ce qui nous est dit. Le titre d'ailleurs l'indique, puisque on pourrait aussi bien parler d'éternel retour, évidemment, que d'espoir aussi permanent, puisque par son entrée dans chacune de ces pièces qui sont dans ce couloir, le personnage fait quand même preuve à chaque fois d'un espoir renouvelé, puisque chaque pièce lui faisant vivre un enfer particulièrement atroce, le simple fait de ressortir dans ce couloir et d'accepter de rouvrir une pièce quand même nous montre que finalement il y a de l'espoir malgré l'enfer des séquences proposées. Et donc c'est par là aussi assez remarquable.
Florent Gergesco, à présent sur une vieille histoire, nouvelle version.
Oui, je partage totalement l'enthousiasme de Jean-Christophe. Je trouve que c'est un livre d'une puissance assez rare. Et c'est surtout, on peut revenir en effet aux bienveillantes, comme vous l'avez fait pour commencer. Une des marques d'un grand écrivain, c'est de troubler, de mettre en question les appellations, les catégories qu'on peut lui infliger, si je puis dire. Dès Les Bienveillantes, roman pourtant très précisément situé dans le genre historique, tout le monde a commencé à s'affoler autour de ce qu'il y faisait. On lui a, dans les polémiques que vous rappeliez, on lui a reprocher d'avoir tel ou tel rapport à l'histoire du nazisme, c'est-à-dire de le surinterpréter psychologiquement, de mettre justement déjà trop de sexualité, on a toujours autour de Little, et ça s'est poursuivi après dans ces livres qu'on a considérés comme mineurs, ce qui était une erreur de plus, on a toujours glissé sur Little, on a toujours trébuché, hésité, bougé. Et en quelque sorte, dans ce livre-là, il rend les choses définitives, il n'est plus possible de lui attribuer quelque forme que ce soit, il les fait toutes glisser dans une autre forme à mesure que le... C'est-à-dire, est-ce que ce livre est fondé sur de la variation, est-ce qu'il est fondé sur une sorte de provocation sur le genre, est-ce qu'il est... Il n'est rien de ce qu'on peut lui attribuer. C'est ce qui rend sa lecture, pour moi, absolument prenante, c'est-à-dire la précision dont Jean-Christophe parler est une précision dans le travail qu'il fait dans le ventre de son lecteur, en quelque sorte. Il est extrêmement chirurgical pour, en nous ayant débarrassé de tout ce qu'on pouvait attendre, arriver directement à ce qu'il veut nous dire de notre propre intériorité, de cette vieille histoire qu'est l'humanité en chacun de ses lecteurs. Et en travaillant avec une puissance, une sorte de saturation fantasmatique de toute la réalité, il arrive, je pense, à nous faire nous demander qui nous sommes à mesure qu'on se demande qui ces personnages sont. Parce que Jean-Christophe, vous disiez, ce qui est une manière totalement exacte de résumer le livre, qu'un personnage passe dans un couloir, ouvre des portes et on attend quelque chose ou pas, et en tout cas il se passe quelque chose quand il pousse ses portes, mais est-ce que c'est le même personnage? On ne le sait jamais. Est-ce que, puisque donc la boucle que fait chaque chapitre l'amène du bassin d'une piscine au couloir de cette piscine avant de replonger, après quelques aventures, dans cette même piscine? D'abord, est-ce que c'est la même? Mais est-ce que c'est le retour à la même chose? Vous le disiez, Arnaud, quand vous lisiez ce début, ce début se retrouve en quelque sorte au début de chaque autre chapitre, sauf que les variations font tout. Et donc, à force de faire de tout variation, la variation n'est même pas la règle. C'est-à-dire qu'il détruit toutes les règles peu à peu. Et du coup, nous sommes assez c'est un peu dans le registre de ce livre, assez à poil face à lui. Et c'est une de ses grandes puissances. Surtout qu'une fois nu dans ce livre, il nous arrive des malheurs qui sont assez intéressants à fouiller. On y reviendra peut-être.
On ne va pas s'admirer dans les reflets de la vitre du studio pour autant. Elisabeth, Philippe.
Alors je partage l'enthousiasme de mes camarades. Je pense que là, on a peut-être une approche pour l'instant assez abstraite de ce livre qui est effectivement fondé sur un principe sériel, une logique de répétition, cette précision à laquelle vous faisiez allusion Jean-Christophe, et qui est presque une forme de rigueur mathématique. D'ailleurs, de Nathanie Tell que j'ai rencontré aussi me disait qu'il avait vraiment fait des tableaux, des calculs pour
à chaque fois
trouver la variation dans la couleur de cheveux, puisque chaque paramètre, en fait, il faut toujours trouver les petits changements pour recomposer perpétuellement le tableau.
Qui portera un chignon.
Mais à la limite, il n'y aurait que ça, ce jeu formel qui n'est quand même pas neuf, qu'on a vu chez Rob Grillet, qu'on a vu chez Schnitzler, etc. Les couloirs qui peuvent rappeler Alphaville. En plus, c'est une littérature absolument nourrie, surnourrie de références aussi bien au cinéma qu'à la littérature, qu'au roman, enfin, Bataille, Sade, etc. Je commençais mon propos en disant qu'il ne fallait pas s'arrêter sur cette abstraction, ce jeu formel, parce que ce qui est au cœur de ce livre, c'est le corps. Mmh. C'est le corps dans tous ses états, le corps jouissant, ou le corps souffrant, le corps torturé. Donc, il y a certes ce jeu un peu intellectuel, du mathématique, mais c'est un livre extrêmement incarné, un livre de chair. Et moi, ce qui m'a énormément plu, et je trouve ce qui donne une dimension contemporaine, encore une fois, à ce texte qui, on pourrait dire, oui, bon, on l'a vu mille fois, le récit circulaire, etc., c'est l'immense fluidité avec laquelle Jonathan Little mène à bien son travail. Et la fluidité est évidemment, et même la liquidité, un motif fondamental, je pense central au cœur de ce livre, ne serait-ce que par l'image de cette piscine, qui moi personnellement m'a fait beaucoup penser au film Le Plongeon avec Burt Lancaster, ce film dans lequel Burt Lancaster rentre chez lui en traversant toutes les piscines du voisinage, de son quartier. Et cette fluidité, elle est contemporaine à mes yeux parce que elle pose la question de la fluidité du genre. On a parlé de ce personnage qui n'est peut-être ni chaque fois le même, ni chaque fois un autre, mais qui en tout cas, d'une variation à une autre, va être homme, puis femme, voire hermaphrodite. Donc il y a vraiment tout ce questionnement sur le genre, d'autant que c'est quand même un livre très sexuel, encore une fois. Jonathan Little réfute la définition, enfin le mot pornographique pour parler de son livre, puisqu'effectivement il n'est pas dans la logique de répétition mais à chaque fois de variation. Ça, il insiste beaucoup là-dessus. Et vous faisiez allusion au sec et au livre Le sec et l'humide, Jean-Christophe. C'est vrai que dans ce livre, Jonathan Little mentionnait le chercheur allemand Klaus Teveleit, pour qui la structure mentale d'une personnalité fasciste s'oppose à tout ce qui coule. Et là, on est justement dans tout ce qui coule, dans cette fluidité. Et donc, il y a aussi une dimension politique sur les questions de genre, sur tout ce que peut représenter la fluidité, fluidité identitaire, fluidité migratoire. Et ça, c'est aussi très présent dans le livre.
Mais c'est vrai que la question de l'espoir, je reviens sur un propos de Jean-Christophe Brianchon qui disait que finalement, puisqu'il ouvre à chaque fois une nouvelle porte, c'est peut-être à chaque fois avec un espoir. Je m'interroge sur cette question-là, c'est savoir est-ce que cette lecture nous afflige ou peut-être nous offre un horizon. Et je reprenais, alors j'ai pas assez de doigts pour toutes les pour trouver toutes les pages des livres, mais ce retour dans l'eau, je vois qu'elle est pure et rafraîchissante, qu'elle est limpide et éclatante, c'est un miroir vif et joyeux, la surface miroitante envoûtante de l'eau sereine et scintillante du bassin. Et c'est vrai que moi je suis resté à chaque fin de séquence, je ne les ai pas tous lus mais un certain nombre, là je veux dire à l'antenne, avec quelque chose qui est presque une évidence, que l'eau lave de beaucoup de choses. Et il y a une simplicité qui, en fait, je crois, doit se prendre comme telle pour le lecteur. Parce que on peut être quand même assez rebuté par la densité du texte, des descriptions, et quand même quelque chose. C'est pas vraiment un livre qui se lit en une fois. Enfin, moi, je l'ai pas du tout vécu comme cela. Parce qu'il faut quand même, je pense, prendre du temps. Et que même physiquement, pour moi, ça devenait pas possible de continuer la lecture par moment. Parce qu'il y a des scènes qui sont à peu près toutes d'ailleurs, d'une dureté telle que, il y a quand même besoin
sauf
de souffler.
Sauf dans la piscine, justement.
Oui, mais la piscine, tout d'un coup, est-ce qu'on peut le lire d'une façon aussi simple, en fait, aussi, Florent Georgescu?
Oui, je crois que c'est une très bonne idée de lire avec simplicité. Je vous félicite.
Non, non, je vais le marquer à quel jour on est, parce que c'est
j'ai toujours dit ça.
29 mars.
Ça fait des années que vous dites ça. Non, mais la simplicité comme manière de se débarrasser de tout arrière-plan. On peut en profiter pour glisser un petit hommage à Clément Rosset.
Ah,
parce
oui.
que peut-être la philosophie de l'auteur du réel et son double peut assez bien coller à l'univers de Little dans ce livre-là, en tout cas. Il n'y a rien d'autre que ce qu'il y a dans la page. Je pense pas que qu'il y ait de signification à chercher. Il ne faut certainement pas, je pense, aller du côté de l'allégorie pour essayer de comprendre ce texte. Il est d'abord une expérience immanente à la langue, immanente par la langue à la chair. Et encore, je parlais de saturation de fantasmes tout à l'heure. Ce qui est merveilleux, c'est que le fantasme donne la loi du texte, de l'univers entier.
C'est plus le rêve que le fantasme, pardon, Florent.
Je pense que les deux.
Parce qu'on est plus dans la logique du rêve que dans celle du fantasme.
Je ne le crois pas pour.
Il y a des fantasmes à l'intérieur des rêves.
Les deux se disent. Il est évident que la circulation du livre est sur le modèle du rêve, littéralement. Enfin, les couloirs, les portes qui ouvrent sur des lieux qui sont impossibles à trouver derrière une porte, comme par exemple des lieux de nature. Tout cela est dans la logique, c'est-à-dire l'illogisme du rêve. Mais il y a quand même dans les variations sexuelles du livre une sorte de fantaisie absolue qui est ressortie à un monde du fantasme souverain. Tout est possible, tout assouvissement sexuel est possible dans le livre. Et c'est en ce sens-là, que il me fait penser moi de très près, de manière très troublante en fait, à l'œuvre de Pierre Guillotin. C'est une sorte de progéniture ou de prostitution, pour citer de textes de Guillotin, mais qu'on pourrait lire en français, puisque je le rappelle, ces livres-là, ce n'est pas toute l'œuvre de Pierre Guillotin, mais ces livres-là sont dans ce qu'il appelle écrit en langue, ce qu'il appelle en langue sans plus de précision, et qui est simplement sa réinterprétation de la langue. Mais si on arrive à lire du Guillotin, ce sur quoi on tombe est parfois, par certains aspects de l'ordre de cette souveraineté du fantasme notamment, assez proche de ce livre-là. Et c'est vraiment, je pense, un bel éloge qu'on peut faire pour Little, qui atteint à cette netteté, cette précision-là. Parce que s'il y a un auteur précis, c'est aussi, on pourrait aussi citer Eden, de Guillotin toujours, que ce livre-là, que le livre de Little évoque même dans sa scansion, dans son rythme le plus interne, le rythme de sa phrase, le rythme de la transition d'une phrase à l'autre, et dans cette fluidité aussi du désir, de la forme, de l'identité, dans ce passage de chaque chose en une autre chose à chaque fois différente.
Jean-Christophe Briançon.
Oui, c'est une souveraineté du fantasme et un onirisme qui, malgré tout, ne sont qu'au service, ou en tout cas ne servent qu'au lecteur à supporter finalement ce qu'on lui donnera, puisque vous le disiez, la lecture est parfois difficile et il l'affirme même lui-même n'être pas là pour distraire les gens. Et de fait, il nous distrait pas, mais il nous confronte à un réel dont il est impossible de s'échapper autrement que soit par la lecture, et peut-être sa lecture, soit par le rêve qu'il met en place et par l'onirisme qu'il essaye de développer. Allez-y.
Florent, rapidement.
Oui, juste, je reviens peut-être rapidement, en effet, à ce que vous disiez, Arnaud, sur la joie. Pour moi, je ne sais pas s'il s'agit de se protéger de quelque chose qui s'exposerait là. Je trouve que la protection, ou plutôt l'apaisement, c'est ce qu'on trouve de joie absolument sauvage, absolument profonde, absolument dangereuse, mais totale, au cœur même des scènes les plus crues, les plus violentes. Juste trois mots. Une scène sexuelle extrêmement intense, le vertigineux, je cite, le vertigineux, le personnage ressent un vertigineux sentiment de toute puissance, ouvert en moi par la pure disponibilité de mon corps. Atteindre ce moment-là, cette pure disponibilité du corps, c'est atteindre une forme de joie qui est d'une intensité absolue. Et je pense qu'il n'y a pas, il y a, n'y a pas de solution de continuité entre la dureté et la joie dans ce livre. Et c'est une des choses les plus troublantes et une sorte de joie extrêmement et profondément angoissante.
Parce que vous évoquez les cinq séquences qui se répètent et qui ne se répètent pas. Jean-Christophe Briançon, en ouverture, parce qu'on a beaucoup parlé des scènes sexuelles, et extrêmement nombreuses et variées, mais il n'y a pas que ça. Et la violence, la guerre, l'insurrection, la dictature, et toutes les violences du monde sont aussi présentes dans les pages de ce livre. Elisabeth Philippe, il faut quand même en dire un mot.
C'est ça aussi la vieille histoire, c'est cette répétition éternelle de l'homme pris entre le sexe et la guerre. Et il y a une dimension roman totale dans ce livre, d'une part parce que Jonathan Little y met tout ce qui constitue son œuvre et donc ses obsessions, mais qui sont des obsessions bien partagées, qui sont les obsessions de l'humanité. Donc effectivement, le sexe et la guerre, et on retrouve dans le livre des pages qu'on a pu lire dans ses carnets de Homs quand il est allé en Syrie, des pages où on reconnaît l'Afrique, et on sait que Jonathan Little a consacré un documentaire à l'Afrique. Donc oui, il y a aussi toutes ces scènes de violence.
Et la Yougoslavie.
Et la Yougoslavie, voilà, il y a toutes ces scènes. Et puis un roman total, parce que il y a la musique, il y a tous les arts aussi dedans. Donc il y a ce côté presque opératique finalement du livre et encore une fois c'est absolument pas une lecture fastidieuse hein, malgré ce côté répétitif,
ça veut pas dire fastidieux.
Voilà. Non mais oui. Je pensais difficile pour le côté répétitif enfin variation ou sérielle, ce n'est pas fastidieux et on est vraiment on est plongé quoi dans cette prose.
Juste un tout petit mot pardon.
Encore
pardon,
après les trois autres qui en ont fait 15.
On a oublié de signaler une chose. C'est l'importance de l'enfance aussi dans le il faut dire on a parlé des changements de genre
et de
d'âge, on l'a évoqué.
Et le chat. Pardon mais il y a un chat.
Le chat, toujours lié à l'enfant, justement. Il y a un chapitre où le personnage est devenu l'enfant qui apparaît dans d'autres scènes. Il se regarde l'enfant est extraordinaire. Ou un autre enfant, certes. Et il faut dire aussi, dans les scènes de guerre, l'enfance, la manière dont on torture, on massacre l'enfance, est quelque chose d'absolument central dans le livre. Enfin, je pense qu'il y a aussi cette question-là.
Mais pas fastidieuse, mais éprouvante. Voilà.
On n'est pas en train de parler de quelque chose de très gai.
Bon.
Et pourtant, il y a une joie.
On va changer de registre dans un instant. Une vieille histoire, nouvelle version de Jonathan Little est sortie chez Gallimard.